Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 53, le Karnataka et Goa. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et ceci est le dernier épisode de l'année, le dernier épisode de la saison 2017. Et à cette occasion, je vous propose de continuer notre grand voyage en Inde. Vous savez qu'on est déjà allé au Ladakh, au Rajasthan, au Kerala, en Arunachal Pradesh. Et aujourd'hui, on va découvrir l'état pas très connu du Karnataka et forcément évoquer un petit peu Goa, puisque c'est la suite logique de ce voyage quand on se trouve au Karnataka, de passer quelques jours sur les immenses plages de Goa. Et pour nous guider, bien sûr, on retrouve Thierry Robinet. Alors bienvenue à nouveau dans Incredible India. Alors bonjour Thierry, bienvenue pour la énième fois sur les routes de l'Asie. On commence à ne plus compter tes participations dans l'émission tant elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses déjà sur l'Inde puisqu'on en est à notre quatrième visite de l'Inde en ta compagnie. On a commencé avec le Rajasthan, le monde des forts, des princes, le désert. On est allé ensuite au Kerala, là c'était la terre des épices, les backwaters. Et ensuite on est allé la dernière fois ensemble en Arunachal Pradesh, donc là c'est le monde tribal, les contreforts de l'Himalaya avec des peuples particuliers. Et aujourd'hui on va au Karnataka. Déjà voilà, c'est un nom qui sonne bien. Alors on connaît bien sûr la capitale Bangalore, mais le reste du Karnataka, je pense que peu de gens le connaissent. Et il y a des immenses sites archéologiques à y découvrir qu'on ne soupçonne pas quand on ne s'intéresse pas trop à cette partie de l'Inde. Et puis, en fin d'émission, on va quand même forcément évoquer Goa, puisque Goa, voilà, c'est un endroit mythique. Et ça tombe bien, parce que je m'y rends bientôt. Donc voilà, tu vas pouvoir me donner des bons conseils à moi aussi. Mais commençons par le Karnataka. Déjà, on est où en Inde et dans quelle Inde on est? Parce que l'Inde est vraiment multiple. Donc le Karnataka, c'est quoi? C'est où?
Bonjour Romain. Alors, comme on en avait parlé dans une émission précédente, aujourd'hui nous allons aller nous promener, on va dire, dans le Karnataka. Le Karnataka est un état très mal connu. En plus, il se trouve pas au centre de l'Inde, mais plutôt il fait frontière avec la mer Arabique quand même. Mais c'est un plateau. C'est un plateau, en fait, le plateau du Deccan. Des vieux plateaux, de vieilles montagnes qui ont été rognées depuis des millions et des millions d'années. Donc, et dans ce territoire, hormis la ville de Bangalore, donc qui est une ville maintenant qui est très connue, qui est finalement la ville de la high-tech, de la technologie, computerized et tout ça. Hormis cette ville de Bangalore que finalement le monde connaît, le reste, ben ça reste l'Inde oubliée, on va dire. Donc, quand on regarde le long des plages, c'est une immense plage tout en longueur qui remonte jusqu'à Goa, qui part du Kerala et qui remonte jusqu'au territoire de Goa. Quand on va dans son centre, c'est un immense plateau avec des sites qui sont extraordinaires que l'on va détailler, en passant par tout d'abord une ville qui s'appelle Mysore, qui était finalement une ancienne grande capitale du sud de l'Inde, avec des palais somptueux, et puis des sites, comme le site le plus grand, je pense, c'est Hampi, Badami, Ayol, Srirangapatnam, Alebi de Bellur et Shravanabelgola, pour les plus connus. Le Karnataka a vraiment une diversité de paysages incroyable. Et quand on commence son voyage donc dans Karnataka, si on arrive d'autres provinces de l'Inde, notamment le Tamil Nadu par exemple, on va arriver quoi qu'il en soit à Bangalore. Bangalore aussi un aéroport international qui est très connu, comme je vous ai dit, Bangalore est une ville de high-tech. Hormis cela, quand même, la vieille ville a quand même quelques petites choses à montrer. Quand on part explorer le vieux Bangalore, déjà bon, il y a quand même le palais du sultan Tipu Sultan, qui a été un personnage important au 15e, 16e siècle. C'est quand même lui qui a construit la ville de Bangalore au départ. Et bon, il y a à droite, à gauche, des temples aussi. C'est la ville de l'or aussi, où on trouve des bijoux qui sont très finement travaillés. D'ailleurs, qu'on voit toutes les femmes indiennes donc de la grande société de Bangalore ou de Mysore toujours se balader avec des rivières de bijoux en or finement ciselés. Donc après avoir vu le palais du sultan Tipu et la vieille ville à explorer comme ça à pied, bon, il faut partir. et il faut aller dans une ville qui est extraordinaire, la deuxième ville du Karnataka, c'est Mysore. Donc quand on arrive dans Mysore, on voit déjà que c'est une vieille ville qui a un côté colonial. Et il y a un endroit qui est absolument fabuleux, c'est l'Amba Vilas Palace, donc c'est le palais du Maharaja de Mysore. Moi je me souviens, dans les années 80, quand j'allais dans cette ville de Mysore, le soir, d'ailleurs tous les jours, maintenant ça existe encore, le palais est illuminé. Vous pouvez pas imaginer le palais avec toutes les portes, avec tous les murs du jardin qui fait des dizaines et dizaines d'hectares, avec tous les toits du palais, tous les murs, toutes les portes, etc., illuminés. Moi, je me rappelle que dans les années 80, quand le Maharaj allumait son palais, il n'y avait plus d'électricité dans tout Mysore. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, mais je dois dire quand même que c'est la place à visiter. En plus, quand on y va le matin, bon, il faut faire peut-être un peu la queue pour rentrer dans le Durbar, pour rentrer à l'intérieur du palais, mais vraiment, ça vaut la peine parce que il y a le trône du roi en or, on voit la galerie où il y a eu toute la procession de tous les princes, les lords anglais, etc. Donc, des beaux jardins. C'est vraiment une ville à visiter. De plus, moi, j'aime Mysore aussi pour son hôtellerie. Je me souviens avoir dormi au Lalita Mahal Palace Hotel, qui est pas très loin d'ailleurs du palais du prince. Du haut de cet hôtel, on voit toutes les collines aux alentours de Mysore, parce que Mysore est adossé aux collines du Deccan. Donc, quand on rentre un petit peu dans les montagnes, après, on va dans beaucoup de parcs nationaux où les animaux sont en liberté. C'est assez intéressant à visiter. Donc, ce palais. Au milieu de jardins superbes et un décor très élégant. Cet hôtel a été construit par le Maharaja de Mysore pour le vice-roi des Indes. Donc il a un cachet tout britannique et à la fois très Maharaja. Donc si vous avez l'occasion et que vous pouvez vous payer le Lalita Mahal Palace Hotel, s'il vous plaît, allez-y, vous ne regretterez pas du tout la visite et votre séjour. Qui plus est, en plus, il est dans une rue où il y a plein de commerçants, où on peut acheter des tas de souvenirs tels que l'Inde sait nous offrir. Donc voilà, pour moi, c'est ça, Mysore. Il y a aussi beaucoup de soie, aussi les ateliers de soie, les marchands, les soyeux. Donc on peut trouver de la soie naturelle de très grande qualité.
D'accord, alors après le passage obligé dans les deux plus grandes villes du Karnataka, donc Bangalore et Mysore, on va vraiment commencer le voyage et là on va découvrir des temples et des sites archéologiques incroyables. Donc on va où après Mysore ?
Bon, dans ce Karnataka, finalement toutes les routes remontent vers le nord et quand on est sorti de Mysore, aux alentours de la petite ville provinciale de Hassan, il y a plusieurs temples de grande qualité concernant l'hindouisme. C'est le temple de Alebi des Bellour et des immenses temples jaïnes de Shravana Belgola. Donc quand on arrive sur Alebi des Bellour, ce sont des temples qui ont été construits par la dynastie Hoysala aux alentours du 12e, 13e siècle. Et c'est pareil, donc quand vous regardez le Osaleshvara Temple à Alebid, pareil, ce sont des colonnades, c'est de la pierre de taille qui est vraiment solide. Il y a beaucoup moins de fresques que ce que l'on peut voir dans les Gopurams du Tamil Nadu, mais ce sont des temples qui font des temples grottes un petit peu, donc de couleur de pierre noire, de pierre ocre. Et qui sont dans des immenses parterres avec des allées, des grandes allées pavées, donc témoin d'une civilisation qui est quand même été antérieure un petit peu à certaines civilisations que l'on trouve donc au Tamil Nadu. Je ne vais pas détailler ici tous les différents temples, mini-temples qu'il y a à l'intérieur d'Alebid, mais devant chaque temple en général, il y a une immense statue de Nandi, la monture de Shiva, donc qui trône devant chaque temple. Donc, ce que j'aime bien surtout au Karnataka, c'est quand on va à Alebid et Bellour, et ensuite à Shravana Belgola et à Hampi, ben c'est qu'il n'y a personne. Parce que moi, je me souviens d'être allé plusieurs fois à Alebid, plusieurs fois à Bellour, et on était seul, j'étais avec quelques personnes, et on a ces sites, on peut dire que ce sont des sites archéologiques de très grande importance, et on est seul. Donc ça, c'est ce côté du Karnataka, je crois, qui marque le plus. Quand vous avez envie de découvrir une Inde un peu mystérieuse, à la fois si vous aimez les pierres, si vous aimez l'archéologie, si vous aimez l'hindouisme, si vous aimez les peuples, si vous aimez les villages où les femmes passent comme ça, lavent leurs enfants au bord de la route, ou les paysans qui sont dans les champs, ben je crois que le Karnataka est quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Donc quand on continue, on est à Bellur. Bellur se trouve juste à côté d'Alebid. Et là, il y a aussi un temple, le Shinakeshvara Temple. C'est pareil, il a été construit il y a 1000 ans en arrière à peu près. Et il est très représentatif de l'architecture de l'Inde du Sud. Bon, de la même façon, dans ces temples, il y a une profusion aussi de déesses, de dieux, de danseuses, de musiciens. Donc, un peu comme à Alebid, c'est quelque chose qui vous intéressera. Et toujours dans la dynastie Hoysala, donc qui a construit tous ces temples il y a plus de 1000 ans. Un peu plus loin, à quelques miles de distance des grands temples de Alebid et Bellur, vous avez un site sur deux collines de granit, la colline Mahagiri et la colline Chandragiri, où il y a un des plus grands temples Jain de toute l'Inde du Sud.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux t'arrêter 2 secondes, Thierry, pour juste expliquer ce que c'est que les Jains, le Jainisme?
En fait, le Jainisme, c'est à la fois un mélange, on va dire, ou une partie de chaque grande religion que l'on trouve en Inde, c'est-à-dire le brahmanisme, l'hindouisme, si vous voulez, le bouddhiste et le sikhisme. Les Jains ont trouvé leur voie dans chaque grande religion, dans chaque philosophie de chaque religion. Donc ils ont créé eux-mêmes leur propre religion qui s'appelle la religion Jain. Et leur dieu finalement s'appelle Adinath. On le retrouve aussi au Rajasthan, on le retrouve dans certaines régions du Gujarat comme Palitana. Et ici en Inde du Sud, donc on le retrouve à Shravana Belgola. Et ce qui est égal, ici, Adinath, il a le nom de Bahubali. Donc c'est une immense statue qui fait, je sais pas, 25 mètres de hauteur et que l'on voit de très loin en plus, parce que comme c'est sur les collines Mahagiri, quand vous arrivez dans la plaine, vous voyez au fond là-bas cette statue de Bahubali. Et la statue est nue. Donc le Jainisme, c'est ça, on met son corps à nu. Ce qui fait que quand vous arrivez à Shravana Belgola, moi j'y suis arrivé un jour où en plus le temps n'était pas très beau, je me souviens, et puis il y avait des Indiens qui venaient ici, qui avaient des Jains dans leur majorité, qui venaient s'asseoir à côté de Baba, comme on dit, mais des prêtres d'Adinath. Et les prêtres d'Adinath, surtout à Shravana Belgola, sont nus, totalement nus. Donc ils sont assis sur une natte, comme des sadhus, mais comme des prêtres. On voit que ce sont pas des vraiment, ils ont pas la grande barbe et tout, au contraire, ils ont les cheveux rasés. Et les femmes, les enfants, les hommes viennent s'asseoir en face de ces hommes nus pour demander quelque chose, quoi, pendant les protections, etc. Donc voilà, Shravana Belgola, perdu au milieu de la campagne du Karnataka, et ses collines Indragiri, là on sait, quand on va dans un temple comme ça, qui est Bahubali et ce qu'est le Jainisme.
D'accord, il y a de quoi en prendre plein les yeux là-bas. Et on va arriver, bien sûr, maintenant dans l'endroit le plus emblématique, le plus connu au niveau historique du Karnataka. Le voyage continue.
Voilà, le voyage continue à travers ce Karnataka, tout le long de la route, en remontant vers ce qui est peut-être le point de mire, le centre de ce voyage au Karnataka qui est Hampi. Tout le long de la route, vous verrez des villages qui sont traditionnels, mais alors très traditionnels, où encore on voit les charrettes avec les bœufs, ou avec les vaches, de villages qui sont pauvres, très peu de voitures, les gens vont à pied en général, et vous descendez, vous arrivez dans un village, si vous passez en fin d'après-midi et que toutes les femmes sont au bain à côté du puits, vous pouvez faire des photos, elles sont toutes contentes en plus, et vraiment c'est l'Inde rurale. Le Karnataka, voilà, c'est peut-être le mot que je peux dire, c'est une Inde très rurale. Très très rural, avec des champs immenses où on plante le millet, où on plante même du maïs parfois et des fleurs partout. Voilà, donc c'est sympa et c'est C'est paisible, voilà. De plus, les routes sont pas très encombrées, donc finalement, même si le kilométrage est assez élevé, je pense que ça va, ça se fait bien. On fait une bonne matinée de route et on profite l'après-midi de l'endroit où on est arrivé. En plus, on arrive à trouver des guest houses perdus un petit peu au milieu de la campagne, mais qui sont simples, certes, mais qui sont très vivables. Voilà, et nous arrivons à Ampi. Ah ben Ampi, ça c'est un autre monde. J'ai écrit pas mal d'articles où j'ai parlé de pas mal de coins dans cette Asie centrale et du Sud-Est. Je dis souvent Pagan. Je parle de Anuradhapura à Ceylan ou Polonnaruwa. Quand j'arrive en Inde, bon, je peux parler d'Ajanta et Ellora qui sont au-dessus dans le Maharashtra. Et puis il y a Ampi. Donc Ampi, c'est fabuleux parce que c'est un UNESCO héritage mondial. Patrimoine mondial de l'humanité. Et Ampi est posé à côté d'une rivière, une petite rivière. Et ce sont les ruines, on appelait ça la cité de la victoire, les ruines de Vijayanagar. Donc c'était une grande capitale, Vijayanagar, la ville de la victoire. Et ça a été la capitale de générations et de générations de rois hindous pendant plus de deux siècles. Et surtout au 15e ou au 16e siècle, les différentes dynasties qui se sont succédées dans ce site majestueux, ont construit des temples de grande qualité. Alors maintenant, si on se balade dans Ampi, c'est sûr qu'on va voir beaucoup de ruines. Mais certaines ruines, c'est comme à Pagan en fait. Certaines ruines sont très bien conservées. D'autres, partout, on va voir des colonnades qui sont comme ça en pleine campagne. Des milliers de colonnades, des poteaux de granit au milieu de collines où on trouve des rochers comme ça avec une végétation qui est un peu rabougrie, où vous verrez des vaches, des moutons ou des chèvres qui se promènent. C'est un paysage biblique, très biblique. Donc, quand on va arriver dans Ampi et qu'on c'est une immense cité. Comme Pagan en Birmanie, il faut bien commencer quelque part. Donc, comment est-ce qu'on va visiter Ampi ? Donc, personnellement, moi, comme à Pagan, c'est la bicyclette. Alors, il y a un petit peu des montées et des descentes, surtout avec les vélos indiens qui sont pas toujours des vélos de grande qualité. Les Indiens, faut souvent pédaler en arrière pour freiner. Donc, si on sait pas faire au départ, on va vite se casser la figure une fois. Mais on comprend. Donc, voilà. Et on arrive à Ampi.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui, vous le savez, sponsorise l'émission et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Alors le concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via leur site verylocaltrip.fr et de mentionner que vous venez de la part de Sur les routes de l'Asie bien sûr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et moi je les remercie de sponsoriser l'émission. Retour à l'interview.
Donc il y a avant tout, quand on arrive à Ampi, bon, il y a un temple, il faut bien commencer sa visite par un endroit, donc on commence par le Vitala Temple, qui est la grandiloquence des monuments religieux et sacrés du centre de l'Inde. Donc je crois que le Vitala Temple, c'est le haut point, c'est l'excellence, c'est par excellence la grandiloquence de l'architecture surtout. Donc avec des piliers décorés, de longs couloirs comme ça au milieu d'une campagne. Donc c'est absolument fabuleux aussi, un gopuram aussi avec des tas de statues, des yalis aussi. Donc les yalis, ce sont des créatures mythiques, un petit peu des bêtes un peu qui font peur avec des grandes dents ou avec qui pointent comme ça leurs pattes. Donc ça et là on le retrouve sur ce Vitala Temple. Et autour du Vitala Temple, et ben quand on regarde, il y a la tour, les bas-reliefs, on peut voir des détails, on peut voir aussi un chariot de pierre comme un vrai chariot, en fait, avec les roues en pierre. C'est absolument fabuleux. Donc, ce petit chariot, en fait, servait en anglais, on dit une shrine, un endroit où on venait poser les déesses à l'intérieur et qu'après, on allait promener lors des grandes processions. Voilà, donc c'est ça Empi au départ.
Et alors, tout ce qui reste d'Empi est fait de pierre à 100%?
Tout est en pierre. Tout est en pierre de grès. Et la pierre de Empi, en fait. Quand on débarque à Empi, c'est vrai que bon, on est subjugué par de voir toutes ces colonnades, ces temples à perte de vue. Mais c'est sur des hectares, des centaines d'hectares. Hein, donc c'est quand même un endroit qu'on peut. Faut prendre son temps. Faut rester minimum 2 jours à Empi. En plus, il y a plein de petites lodges, donc c'est sympa pour pouvoir y habiter. Il y a plein de petits magasins. Plein de petits restaurants aussi, mais c'est la grandiloquence de l'endroit qui fait que c'est beau. Donc on part, alors on va au gré, si vous avez un plan, vous pouvez partir, donc vous passez par le temple de Krishna à côté d'un petit lac par exemple. Donc tout ça date à peu près du 15e siècle, 14e, 15e siècle, ce qui n'est pas très très vieux, mais c'est beau. Parce qu'autour, vous avez plein de ruines, de morceaux de rochers, de morceaux de temples qui restent. Après, vous passez à côté d'un grand temple aussi, le Virupaksha Temple, qui a aussi comme un grand Gopuram, donc qui est presque au centre de la ville d'Empi. Donc, au gré de votre voyage à bicyclette, vous passez devant la balance du roi. Donc, c'est un Porsche, en fait, en pierre. On peut même y passer en vélo. Et à l'époque, les rois voulaient faire le bien pour donner à manger aux pauvres et aux paysans. Donc il montait dans une balance, donc à l'époque les rois étaient quand même costauds, donc si par exemple il pesait 100 kilos, imaginons, donc on devait mettre 100 kilos d'or et de grains à l'intérieur que l'on devait après distribuer aux pauvres. Donc c'était quand même fabuleux, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, surtout nous dans nos contrées européennes, où c'était le contraire. Le roi il montait sur la balance, et puis c'est les paysans qui devaient payer son poids en or. Donc partout vous avez une immense statue de Narasimha. Donc, statue de Vishnu, en fait, Vishnu Narasimha, que l'on trouve comme ça, en passant dans un temple, posé sur comme une stèle. Et ce que j'aime beaucoup aussi à Empi, c'est, après une longue descente, je revois encore ce chemin qui file, on arrive devant les étables aux éléphants. Alors là, donc, on peut penser que pendant les différentes dynasties qui se sont succédées pendant 2 siècles sur place à Empi, comme je l'ai dit, les étables aux éléphants qui sont immenses, donc qui sont beaucoup plus hautes que la taille d'un éléphant, et qui y en avait des dizaines et des dizaines, donc tout en longueur. Donc ça, c'est assez fabuleux, parce que les éléphants royaux à l'époque étaient derrière, il y avait toute la maison du peuple qui devait s'occuper des palefreniers, qui devait s'occuper des cornacs, qui devait s'occuper de tous les animaux de la royauté. Plus loin, vous avez le Lotus Mahal, Mahal le Grand, donc une fleur de lotus construite en pierre comme ça, qui servait. Ça et là, au gré de votre périple à bicyclette, vous voyez des immenses puits aussi, des puits à étages, donc on descend comme en forme d'escalier, ça peut descendre jusqu'à 20 ou 30 mètres à l'époque, dans des régions très désertiques, le puits était important. On a vu la même chose par dizaines de fois au Rajasthan aussi, donc voilà. Donc c'est tout ça en pis. En plus, quand vous partez dans la campagne, bon, il y a plein de villages de paysans. Aujourd'hui, il est certain que le site est restauré. Personnellement, je trouve qu'il est trop restauré. Un petit peu comme Pagan, où finalement, on voudrait refaire tous les temples, tous les stupas. C'est sûr que ça aura du cachet. Mais bon, quand on voit ces colonnades qui sont par milliers comme ça dans la campagne, au milieu de rochers, au milieu de petits champs en herbe avec des fleurs, avec du bétail, donc vous voyez les moutons, les chèvres et tout, ça c'est le passé, c'est quelque chose qui ne doit pas disparaître. Donc moi je peux reconnaître que le gouvernement du Karnataka, s'il veut vraiment faire venir beaucoup de touristes et réparer, c'est aussi un héritage mondial, c'est l'UNESCO qui paye, donc à ce niveau-là je ne dirais rien, quoi. Ce qui est intéressant aussi... Bon, pour le voyageur, c'est de faire une descente en coracol, donc ces fameux petits bateaux qui sont en peau de buffle, et buffle et bambou, descendent de la rivière, donc la Tungabhadra River, au milieu de rochers. Donc le paysage est assez idyllique. On pourrait se trouver dans un pays de désert, n'importe où, parce que c'est vraiment Empi est vraiment sec, sèche. Il fait chaud, ça fait à la fois désert et légèrement montagne. Et donc, quand vous descendez en bateau dans cette eau fraîche, l'eau est très fraîche en plus, encore à colle, bon, c'est un petit moment sympa de votre visite de Hampi. Donc voilà, moi Hampi, c'est ça, c'est un retour dans le temps. C'est comme à Pagan, voilà. Je peux les comparer, ces deux grands sites héritage mondial de l'UNESCO.
Alors après Hampi, il y a un autre endroit tout aussi important historiquement, c'est le site de Badami, aussi un site archéologique avec là des grottes, je crois, et aussi voilà une multitude de temples. Donc parle-nous maintenant de Badami.
Alors quand on remonte ce Karnataka, après plusieurs heures de route, parce que mine de rien, le Karnataka, c'est quand même un grand état, c'est pas le plus grand état de l'Inde, bien au contraire, le Madhya Pradesh est beaucoup plus grand, mais quand on regarde sur une carte de l'Inde, il est quand même assez allongé, et les heures de route que l'on fait, heureusement, il y a peu de trafic sur les routes, on le sent quand même, quoi. Mais on arrive après dans le dernier grand site, et un des plus vieux sites de l'Inde, le site de Badami. Quand on arrive à Badami, Badami, en fait, c'est un gros village, on va dire. Donc le village est à l'extérieur et les temples grottes de Badami sont comme ça, creusés sur des falaises. Donc, pareil, on pourrait dire aussi que ça fait partie d'un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces vieux temples qui datent de 1500 ans, roches coupées, on va dire, temples creusés dans la grotte, monuments structuraux, la décoration des murs dans ces temples grottes sont dédiés avant tout à Shiva, à Vishnu et aussi à tous les saints jaïns. Ça n'a rien à voir avec Hampi. Hampi, finalement, était une grande royauté. Hampi, il y a eu des temples avec des palais. Les palais aujourd'hui qui ne sont plus parce que je suppose qu'ils ont tous brûlé. Il devait y avoir en plus des guerres entre différentes royautés. Alors que Badami, c'est pas comme ça. Badami, c'est plus des grottes et des temples dédiés à des religieux, à des renonçants, un peu. Mais c'est très très riche parce que quand on rentre à l'intérieur, il y a plusieurs caves, plusieurs grottes. Vous avez des frises de Vishnu, par exemple, qui sont très belles, donc en 1500 ans quand même. Quand vous rentrez dans une autre pièce, une autre grotte, vous avez un peu comme au Tamil Nadu, dans les grands temples, des colonnades, richement décorées, richement travaillées, avec des petites statues, etc. Donc, c'est beau. Quand vous rentrez dans une autre grotte, donc vous avez Adinath, qui est là. Donc ça prouve que entre le shivaïsme, le vishnouïsme et le jaïnisme, à un moment donné, ils ont vécu ensemble. Ou alors ils ont les dynasties, les moines sont venus les uns derrière les autres et ils ont gravé dans la roche ce qui était leur croyance. Donc Badami est un endroit extraordinaire, vraiment. En plus, quand on est sur ces rochers comme ça et qu'on domine les vallées, au loin, on voit encore des forteresses qui sont posées sur des rochers. On voit des temples en bas à côté d'un bassin d'eau. Comme je dirais, ça a de la gueule, quoi. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Donc explorer Badami, je dirais pas que c'est comme Hampi, mais une bonne journée à Badami de visite, ça vaut vraiment la peine. Vraiment, vraiment. Et en plus, un petit musée archéologique autour qui peut expliquer avec des statues et avec beaucoup d'histoires ce qu'a été la vie des différents princes ou des différents moines qui sont passés là. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur le Karnataka. La campagne autrement, la campagne à perte de vue, les villages. Et ce qui est intéressant après, c'est que quand on a fini cette... il y a encore des temples, hein. Je pourrais encore vous parler de Patadakal, qui a aussi des ruines imposantes. Je peux vous parler de Ayol aussi, qui a un temple de Durga aussi, qui est extraordinaire, un temple en arc de cercle, qui est très très beau, avec pareil des statues gravées sur les piliers, sur les bas des temples, etc., qui ressemblent un peu à l'Ebi des Bellours. Voilà, le voyage au Karnataka, il prend pas sa fin, parce que aussi, quand on est aussi sur la bordure du Kerala, c'est ça même, hein, quand on est à la bordure du Kerala et du Tamil Nadu, il y a beaucoup de parcs nationaux. Donc si vous avez le temps d'aller au Kabini Réservoir, c'est rigolo comme nom, mais il y a une population d'éléphants sauvages qui est très intéressante. Vous avez des singes, vous avez des gores, vous avez un petit peu comme dans les autres réserves du sud de l'Inde. Et en plus, j'aime bien, parce que à Kabini, j'avais dormi dans un endroit, dans les treehouse. Donc il y a un hôtel comme ça, vous avez votre bungalow qui est au sommet des arbres. Alors moi, bien sûr que ça me rappelle la Papoua, où j'ai vécu nombre de fois avec les gens dans les arbres à 40 mètres de hauteur. Bon là, on n'est pas dans la même dimension, mais je dois dire que c'est quand même très très beau, parce que quand on est dans les arbres, on domine toute la nature, la jungle, la savane, et on voit passer les animaux. Et ça, c'est génial. Génial, génial, génial. Donc, prenez le temps d'aller faire un petit tour dans ces réserves animalières, ça vaut le coup.
D'accord Thierry, ben écoute, voilà, ça fait beaucoup de choses à voir au Karnataka, de nombreux sites archéologiques, ces temples, toute cette histoire, et puis voilà, cette nature, cette Inde rurale qui fait du bien, un petit peu à l'écart des foules. Pour finir, on va parler de Goa, d'abord parce que je sais que c'est un endroit que tu aimes beaucoup, et c'est vrai que c'est voilà un lieu assez mythique qui résonne en Inde par son passé, voilà, dans les années 70, et puis parce que c'est aussi collé au Karnataka, hein, au nord ou à l'ouest, selon où on se situe au Karnataka, mais ça fait une suite logique à ce voyage, et c'est un endroit où on peut aller se prélasser sur d'immenses plages, donc on va pas non plus se refuser ce petit plaisir. Parle-nous de ton Goa, le Goa que tu as connu et puis le Goa d'aujourd'hui, voilà, tes coups de cœur à Goa.
Donc quand on sort du Karnataka, ben on va où ? Ben finalement, on finit son voyage à Goa. Donc Goa, bon, je peux en parler, j'y étais dans les années, dans mes jeunes années, hein, l'après-hippie, tout le monde connaît Goa, justement de ces années 70, 60-70. Alors, comptoir portugais. Quand on arrive à Panaji, donc qui est la capitale, où on dit Panjim aussi, bon, tout le monde connaît les plages. Ça a commencé par Calangut, Anjuna, Vagator, Chapora, etc., etc. Donc des plages sans fin, entrecoupées de rochers, et où chaque communauté, au départ les babas européens, on va dire, y ont apposé une marque. Donc moi je me souviens quand je suis arrivé la première fois à Calangut, déjà il n'y avait pas grand monde, et bon j'étais vraiment désargenté, et j'habitais dans une petite maison d'une femme portugaise en plus qui s'appelait Olga Lobo, je n'ai jamais oublié son nom parce que c'est Olga Lobo, qu'est-ce qu'elle m'a aidé ? Elle avait une vieille maison portugaise, c'était beau avec un jardin, malheureusement elle ne s'occupait pas beaucoup de sa maison, donc moi je l'aidais à nettoyer, comme ça je payais moins cher le loyer, parce que j'avais vraiment pas une thune, hein, c'est le mot. Et tous les jours, je partais sur la plage, donc je la Calangut, puis je traversais, puisque Anjuna était à côté. Je partais avec mon petit sandwich que j'achetais chez le marchand du coin. Un pain et deux bananes que j'achetais, je me faisais mes sandwichs à la banane. Donc je ne pouvais manger que ça. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps, des jours et des jours. De toute façon, je ne pouvais pas sortir, j'avais plus d'argent. Et je me mangeais ça et je passais souvent devant les restos. Déjà, il y avait, on va dire, les routes argentées ou les touristes argentés. Je voyais qu'ils mangeaient des poissons grillés. C'est vrai que j'avais un peu les boules. Mais bon, c'était un épisode un petit peu de tous ces babas. J'ai fait le baba européen à Goa, quoi. Mais sinon, bon, quand on part sur les plages de Goa, les plages sont très larges. Très très large, donc on peut faire du vélo, on peut partir à pied, et vous pouvez louer une moto maintenant et tout. Mais moi je vous conseille Anjuna, Calangut. Anjuna maintenant c'est plus ce que c'était. Moi j'ai connu le Anjuna à l'époque où il y avait le hippie market, donc chacun venait y vendre ses confitures faites maison, il y en a qui faisaient des gâteaux, c'était sympa, il y avait plus de gâteaux à chiche que de gâteaux à la fraise, mais bon c'était rigolo. Je me rappelle aussi, j'y étais pas, mais que le Pink Floyd était venu jouer sur les plages d'Anjuna. Concert à Goa par le Pink Floyd, on peut imaginer ce que ça a pu donner. Et mais louer une moto et partez justement plein nord, Vagator, Chapora, très très loin, et vous aurez comme ça des vous allez vous rendre compte que vous êtes seul parfois sur des plages sans fin, et que vous trouverez facilement des guest houses pour pas grand chose. Vous pourrez manger des poissons parce que tous les pêcheurs tout le long, donc là le poisson est à gogo. Et bon voilà, c'est Goa quoi. Sinon le vieux Goa, la ville elle-même, bon ancien territoire portugais, bah il y a plein de cathédrales. C'est une ville ancienne, maintenant c'est plus pareil, c'est une ville où le business est venu parce que toute la jet set de Bombay maintenant vient y acheter des villas, vient s'installer quand ils en ont un peu marre de la chaleur de Bombay, de la foule de Bombay. Ou après un tournage, ils aiment bien venir dans leur petite villa à Goa. Donc c'est ça, Goa. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve quand même encore de vieilles églises de type portugais, un peu comme à Kochi. Cochin. Donc, moi, je trouve que ça vaut la peine d'aller prendre une journée et se dire, tiens, eh bien, on va faire un tour dans la ville elle-même, parce que les plages, c'est quelque chose, mais au bout d'un moment, bon, il faut voir autre chose. Donc, le territoire de Goa, quoi qu'il en soit, c'est une bonne fin de voyage en Inde, que ce soit en Inde du Sud ou éventuellement l'Inde un peu plus centrale. Et puis, bon, il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de monde. Le monde entier se retrouve à Goa, parfois. Mais j'aime bien. Et puis c'est mythique. Voilà. Donc ce voyage au Karnataka et à Goa, il a plein de choses à montrer. Et c'est une autre façon de découvrir l'Inde. Hein, il y a 1000 facettes de l'Inde. Il y a 1000 trésors. Aujourd'hui, on a parlé du Karnataka. Demain, on va certainement aller au Maharashtra. Où là, il y a les grandes réserves animalières, où on voit encore les derniers lions, le dernier lion asiatique dans la forêt de Gir. Randhkuch, où il y a les immenses terrains salés, avec des populations, avec des femmes qui ont des bijoux partout, avec les saris rouges qui flamboient dans le soleil brûlant, on peut dire. Bon, c'est ce que je vous raconterai la prochaine fois.
Eh bien, on a hâte, Thierry, comme d'habitude, d'écouter tes prochains récits sur les autres états de l'Inde qu'on n'a pas encore explorés. Ce pays est tellement immense que je pense qu'on va devoir encore consacrer pas mal d'épisodes à sa découverte. En tout cas, je te remercie comme d'habitude pour tout ton partage, toutes les informations, la connaissance que tu partages sur tes périples en Asie, hein, l'Inde, l'Indonésie, la Birmanie notamment, le Népal également. On n'est pas au bout de nos peines et ça fait plaisir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et puis merci beaucoup encore une fois.
Merci Romain.
Nous voilà au bout de cet épisode 53 sur l'Inde à propos du Karnataka et de Goa. J'espère que ça vous aura plu, comme j'espère que vous auront plu les épisodes précédents sur l'Inde. Vous le savez, c'est un pays que j'aime beaucoup et si ce n'est pas déjà le cas, j'espère que ces différents épisodes aideront à développer chez vous une passion pour l'Inde. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées et beaucoup de noms qui ont été évoqués par Thierry dans le podcast. Comme d'habitude, pour les retrouver, vous pouvez vous rendre sur le site web solleroutesdelasie.com/53. Tant que vous y êtes sur le site, vous pouvez laisser un commentaire sur la page de l'épisode ou le faire également, et c'est encore mieux, sur la page iTunes du podcast, ce qui permet de faire connaître l'émission à un plus grand nombre. Et aujourd'hui, j'aimerais citer le commentaire de Critique Juste qui a dit « Top, merci pour votre travail, très agréable à écouter en voyage ». Fin du commentaire, et ben voilà, parfait, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette émission, vous donner du contenu de qualité que vous pouvez déguster en voyage puisque c'est encore mieux si vous le faites sur la route. Voilà, c'était le dernier épisode de l'année. À vrai dire, j'aurais aimé en publier davantage. C'est vrai que 9 épisodes, je considère que ce n'est pas assez pour satisfaire votre curiosité. Mais j'ai de très ambitieux projets pour 2018. Il me tarde vraiment de vous les raconter, ça ne va pas tarder. En tout cas, restez connectés pour ne rien rater de tout ça en suivant par exemple la page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter sur le site web. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, passez un très joyeux Noël et profitez-en bien. Et nous, on se retrouve en 2018 pour une année pleine de surprises. Merci pour votre écoute, portez-vous bien, voyagez bien et excellent voyage en Asie.